est 5h13, l'heure de retrouver José Manuel Lamarque. Bonjour.
Bonjour Mathilde Munoz.
Dans votre journal de géopolitique du vendredi, aujourd'hui les questions des Russes.
Et oui, plus précisément, quels effets produisent les sanctions européennes sur le peuple russe? C'est une question posée à une très grande spécialiste de la Russie. Elle est russophone, elle est née à Moscou, collaboratrice de l'Élysée sous Jacques Chirac, Elena Perrou. Elena Perrou a rencontré Vladimir Poutine plusieurs fois et reste au contact de la Russie. Réponse.
Alors, les Russes voient devant et essayent de voir loin devant. Il y a une personnalité emblématique de l'effet de ces sanctions sur la Russie qui est un fromager, un jeune homme d'une quarantaine d'années.
Le fameux fromager qui a gagné tous les prix.
Ah, vous le connaissez déjà. Très bien.
Oui.
Alors, il s'appelle Oleg Sirota. Comme personnalité, il est extrêmement médiatique maintenant et il faut dire aussi très sympathique. Il se trouve que c'était un ingénieur en informatique qui, au moment des sanctions, en 2014, a vendu son appartement, sa voiture et tout ce qu'il avait pour partir à la ferme, au sens propre du terme, c'est-à-dire créer une production de fromage dans les environs de Moscou. Eh bien, son exploitation a cru de 300% depuis 2014, avec un savoir-faire français du reste qui est très apprécié, et il voit même des fermiers français qui vendent leur exploitation en France pour venir s'installer en Russie. Et ce qu'il disait, ça serait bien que les sanctions durent encore quelques temps, parce que nous, ça nous permet vraiment de nous mettre debout, d'assurer la solidité de notre exploitation, du fait que ces sanctions, évidemment, ont entraîné un embargo sur un certain nombre de produits exportés de l'Union européenne, qui ont permis aux Russes de développer des secteurs, notamment biens de consommation et notamment agroalimentaire, qui étaient jusqu'alors trop faiblement développés. Donc si vous voulez, les sanctions, globalement, pour ce que les Russes en voient, n'ont pas eu d'effet négatif à moyen terme. Peut-être que le glissement auquel on assiste ces dernières années, c'est que la Russie était très attirée par les valeurs occidentales. À la chute de l'URSS, c'était évident, dans la décennie 90. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y a un remplacement des valeurs occidentales par les valeurs eurasiatiques. Entre autres choses qui pourraient les définir, c'est la très grande diversité des populations, des confessions, des ethnies au sein de ce monde eurasiatique. L'Occident est majoritairement chrétien. L'Eurasie est beaucoup plus diverse d'un point de vue confessionnel. Et il y a une réalité qu'on oublie très souvent quand on pense à la Russie, c'est justement ce caractère formidablement pluriel, divers. Si vous voulez, le multiculturalisme, s'il y a un pays dans lequel il est très bien installé depuis fort longtemps, c'est la Russie. Et c'est vrai que nous, avec notre regard occidental, on voit souvent Moscou, Saint-Pétersbourg, on ne voit pas beaucoup plus loin que l'Oural. Et on ne connaît pas bien la partie asiatique, on ne connaît pas bien la composante musulmane non plus, qui est extrêmement importante en Russie. Sur une population de presque 150 millions d'habitants, enfin un peu moins, il y a quelque chose comme 25 millions de musulmans. Et qui ne pose aucun problème de coexistence pacifique, s'il faut employer ces termes-là, avec la majorité de la population qui est orthodoxe. Parce qu'il y a une particularité russe qui échappe peut-être à la conception qu'on a de la Russie quand on la voit d'un peu loin, c'est que les Russes musulmans sont précisément des Russes musulmans avant d'être des musulmans de Russie.
Ils sont d'abord russes, quoi.
Ils sont d'abord russes, mais qu'ils soient musulmans, qu'ils soient orthodoxes, qu'ils soient juifs, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient chamans, ils sont d'abord russes. Et russes au sens... Je vais passer par la langue russe pour expliquer cette petite nuance, mais qui est très importante et qui est imperceptible en français. Il y a deux mots en russe pour des russes. Ruski, rasiski. Ruski, ça veut dire russe au sens orthodoxe et blanc, ethnique du terme. Mais des Tchétchènes, des Ingouches, des Tatars sont aussi membres à part entière de cette grande fédération de Russie. Ils sont rasiski. Et ce qui est intéressant, c'est que la force de la Russie, c'est précisément de contenir cette diversité dans l'unité. Et vous savez, c'est le même mot en russe qui dit paix et qui dit monde.
Mir.
Mir. C'est-à-dire que le monde, dans sa diversité, doit être pacifique. Parce que même dans le langage russe, on peut dire en forçant le trait un peu que le russe est la langue pacifique par excellence.
Vous avez compris, Mathilde, la différence entre russki et rasiski?
J'ai compris, je suis pas sûr par contre de réussir à le dire comme vous.
Un russe nommé Poutine, c'est le livre de Elena Perrou, c'est édité aux éditions du Rocher. On dit au revoir en russe?
Allez-y,
je vais essayer.
Das Vidania.
Voilà, всё хорошо.